Alors pour tous ceux qui étaient là il y a 15 jours, vous ne serez pas surpris du thème du message, puisque j'avais prêché sur l'obéissance de Jésus-Christ, et j'étais seulement à l'obéissance de Jésus-Christ. Mais après l'obéissance de Jésus-Christ, il y a la nôtre. Et donc, je vais poursuivre aujourd'hui avec notre obéissance. Et puis, le message ne sera pas encore fini, il y a encore bien des aspects qu'il faudra reprendre ensemble. Prions. Seigneur Dieu, que ta grandeur, ta gloire soient sur nous ce matin. Que ta bonté, ta fidélité nous instruisent maintenant par ta parole. À cause de Jésus-Christ, du grand exemple qu'il nous a donné, Seigneur. Sois béni de nous avoir mis ensemble à ton écoute et à travers les uns et les autres, de pouvoir recevoir ce qui vient de toi. Amen. Alors je vous relis le passage de base. C'était dans Hébreux au chapitre 5. Je prends seulement à partir du verset 7. C'est lui, Jésus-Christ, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Je ne vais pas refaire le message précédent, mais rappeler seulement que l'obéissance de Jésus-Christ a consisté à s'abaisser, s'humilier, devenir homme, simple homme, et donner sa vie, descendre jusqu'à être considéré comme coupable et crucifié pour nos péchés, et donc ainsi descendre jusqu'à notre mort. C'est le chemin d'abaissement qu'il a accepté pour accomplir la volonté du Père. Lui qui existait en forme de Dieu, c'est ça, c'est Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 8, jusqu'au verset 11, cet abaissement du Fils de Dieu. Et puis ensuite, ayant obéi, alors il a été élevé au-dessus de tout. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Vraiment, ce passage de Philippiens témoigne de l'obéissance parfaite du Fils de Dieu. Et elle est rappelée ici, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et voilà, ayant obéi, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour ceux qui lui obéissent. À notre tour d'entrer dans l'obéissance, dans son obéissance, lui obéir à lui. Ne pas nous mettre à obéir à des principes, à des règles, à des commandements d'hommes, mais obéir au Fils lui-même qui a donné sa vie pour nous. J'avais lu dans le livre des Actes quand même, j'avais conclu en rappelant ce passage, en quoi consiste déjà cette obéissance, et nous irons plus loin. Mais nous voyons, chapitre 6, verset 7, que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La parole de Dieu est prêchée, elle présente Jésus-Christ, cette parole, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Elle présente Jésus-Christ, son exemple, son engagement envers l'homme pécheur. Et donc, cette parole, elle t'engage à réagir et à mettre ta confiance en lui. C'est ce qu'ont fait les sacrificateurs, eux qui étaient les hommes de la loi, qui mettaient leur confiance dans les œuvres de la loi, ont accepté de déplacer leur confiance, et plutôt que de les mettre dans l'accomplissement, la mettre dans l'accomplissement des œuvres de la loi, ils l'ont placée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux. Les sacrificateurs, les hommes de la loi, les hommes du culte, ont commencé à obéir à la foi. C'est l'obéissance quand le croyant fait tout simplement comme Dieu lui dit. Repentez-vous, convertissez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous pour... Pourquoi ? Sur quelle base ? Sur la base de la foi en Christ qui est mort et ressuscité pour vous. Ceux qui obéissent au Fils, donc, reçoivent le salut éternel. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est la condition du salut, mettre sa confiance en Jésus-Christ, obéir à Dieu qui nous présente son Fils. L'obéissance te met au bénéfice du sang de Jésus. Je vous lis dans l'apôtre Pierre, premier chapitre, versets 1 et 2. Paul, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, s'adresse à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. En devenant obéissants, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous bénéficions de la sainteté de Dieu qui nous est donnée par le sang de Jésus. Notre obéissance permet aussi le don du Saint-Esprit. Pour revenir aux Actes, juste un peu avant, au chapitre 5, alors je vais monter un peu plus haut que j'avais pensé, donc au verset 5, verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et ici, en l'occurrence, Dieu qui demande de rendre témoignage à son Fils, qui demande d'enseigner au sujet de l'œuvre de la croix. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui obéissent à Dieu, qui reçoit l'Évangile, voit le Saint-Esprit qui vient dans leur vie. Enseigner Jésus permet l'œuvre du Saint-Esprit. Enseigner Jésus, le recevoir, et ça permet non seulement de recevoir le Saint-Esprit, mais de ce que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies pour nous révéler tout ce que nous avons en Christ puisque nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui continue à être témoin à travers ce qu'il fait, ce qu'il révèle, tous ceux qui l'appellent à Christ et qui le reçoivent, reçoivent le témoignage du Saint-Esprit et les œuvres que le Saint-Esprit leur donne d'accomplir en son nom. Puisque là, en fait, cet épisode fait suite à une guérison opérée par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a témoigné de Jésus-Christ à travers la guérison d'un paralytique. Le ministère apostolique n'avait pas d'autre objet que d'amener à l'obéissance de la foi. Romains chapitre 1, verset 5. Par lui, Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome. Voilà. Et puis il termine en fait de la même façon cet épître, au chapitre 16, versets 25 et 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. L'Église poursuit cette mission. Et l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est lui, ton frère ou ta sœur. Chacun d'entre nous, nous portons ce témoignage à rendre à Jésus-Christ. Nous le recevons pour nous-mêmes et nous le transmettons. C'est cela aussi l'obéissance de la foi. Dire oui à Dieu à cause de Jésus et engager notre vie à sa suite. Engager notre vie comme Abraham l'a fait. En toute confiance. Le témoignage d'Abraham a un début et, on peut dire, une fin dans l'obéissance. Le témoignage d'Abraham, ce n'est pas un seul acte de foi. C'est un acte initial qui va le conduire beaucoup plus loin qu'il ne pensait. Nous lisons dans le livre de la Genèse, hein, au chapitre 12, quand Dieu s'est adressé à son serviteur. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et, je continue quand même la lecture, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, c'est traduit. Abraham obéit. Abraham a écouté la voix de Dieu, ce que Dieu lui demandait, assorti d'une promesse. Car Dieu fait une promesse. Et Abraham, à ce moment-là, fait confiance à Dieu. Il fait confiance à la promesse de Dieu. Mais pour qu'elle s'accomplisse, cette promesse, il obéit. Il part, il quitte sa patrie, sa famille, tout ce monde dans lequel il vivait. Et où se trouve, d'après vous, la fin de l'obéissance d'Abraham? Il y a eu toute une série d'actes qui ont été posés dans la vie d'Abraham. Mais où se trouve, on peut dire, le dernier acte? Après, il a encore fait quelque chose dans la foi, mais le dernier acte vraiment d'obéissance, l'acte qui scelle vraiment son obéissance et sa confiance, donc sa confiance en Dieu, c'est au chapitre 22, à partir du verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Voilà où Dieu a amené Abraham dans son obéissance. Et Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Aller au lieu que Dieu lui avait dit. Au verset... Alors, c'est au verset... À la fin, verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Déjà, c'était promis au départ. Et là, maintenant, c'est scellé parce qu'Abraham a obéi à la voix de son Dieu qui lui demandait d'offrir Isaac en sacrifice. Mais Abraham n'a pas fait ce sacrifice sans la foi, au contraire. Il a fait ce sacrifice, nous dit l'Épître aux Hébreux, en croyant que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, que ce fils qu'il avait reçu de Dieu, il appartenait bien à Dieu et il lui appartenait pour la vie. Donc il s'est confié totalement en la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi, ce que Jacques, l'apôtre, appelle l'œuvre de la foi. Il y a la confiance que nous mettons en Dieu, dans notre cœur, et puis il y a les actes que nous posons et qui viennent confirmer cette foi. Chapitre 2, versets 20 à 23. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Il y a un commencement et il y a une suite et une fin à notre foi. Nous commençons par croire au Seigneur et nous lui donnons notre confiance pour qu'il puisse complètement agir selon sa grâce et selon sa puissance dans nos vies. Alors, l'aurais-tu fait, toi? Aurais-tu, selon la promesse que Dieu avait faite, pas simplement parce que des circonstances inattendues se présentent que tu ne comprends pas et tu acceptes, ça c'est une chose. Mais dans le même contexte qu'Abraham, l'aurais-tu fait? Le feras-tu aujourd'hui? Pour rendre quoi? Témoignage à Jésus-Christ, car c'est de cela dont il s'agit, la mort et la résurrection, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc moi, je t'appelle à écouter sa voix, à écouter la voix de Dieu pour te confier jusqu'au bout dans sa fidélité, pas te confier initialement seulement en l'œuvre de Christ, mais te confier jusqu'au bout en sa fidélité. Veux-tu vraiment rencontrer Christ dans sa mort? C'est pourtant le sens de ton baptême. Dès le départ, c'est bien ce que l'apôtre nous enseigne dans son épître aux Romains, chapitre 6, je vous lis les versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est le commencement de notre obéissance. C'est là que tu as commencé à obéir, lorsque tu as accepté ce baptême dans la mort de Christ. Verset 16 du même chapitre. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, puisque il ne s'agit pas du même genre d'esclavage. Si nous avons dû mourir avec Christ, si Christ a dû mourir et si nous devons mourir avec lui, c'est bien à cause du péché. Si nous n'avions pas de péché, nous serions libres devant Dieu, nous vivrions à sa gloire sans aucun problème, n'aurions pas besoin de la mort de Christ. Mais par notre péché, Christ a dû souffrir, Christ est mort, et donc c'est bien dans la mort que nous pouvons le rencontrer comme étant notre libérateur. Ce n'est plus maintenant le péché, puisque nous avons été libérés de notre péché par la mort de Christ. Ce n'est plus le péché, mais la justice à laquelle tu soumets ton âme. Tu n'es plus esclave du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et à ce moment-là, quand tu deviens esclave de la justice, tu trouves la vie. Et si tu persévères dans l'obéissance, c'est pour la vie véritable, jusqu'à ressusciter d'entre les morts. C'est pour cela que tu obéis à Dieu et que maintenant tu vis dans la justice. Tu ne vis plus pour le péché, tu vis pour la justice. Dans l'espérance de la vie, non plus avec la mort devant toi, mais avec l'assurance et la confiance que Dieu va te donner la vie. Et quand tu vis dans la justice, déjà aujourd'hui, dans ta vie quotidienne, tu trouves la vie nouvelle, et puis tu attends l'espérance de la vie éternelle. C'est ce que Paul signifie dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, concernant sa propre expérience. Bien sûr que nous devons étendre à nous, mais il le dit d'abord pour lui. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Mais toutes ces choses, c'est-à-dire le fait d'être juif, d'observer la loi, etc., qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ici, Paul parle de sa position devant Dieu, du culte véritable. D'ailleurs, il avait commencé cette exhortation au verset 2 en disant « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre confiance dans la chair étant donc... de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Donc c'est la position spirituelle là. Et il a trouvé, en se confiant uniquement dans la justice de Christ, il a trouvé, en gagnant Christ, il dit, hein, gagner Christ. Donc Christ, maintenant, il est vraiment à lui, avec lui. Et alors là, il peut connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il enchaîne et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc ici, c'est la position spirituelle. Mais l'apôtre Pierre, lui, va nous donner une autre version, celle de la conduite à laquelle nous amène notre obéissance. 1 Pierre, toujours au chapitre 1, versets 13 à 21. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Je vous ferai remarquer que la pensée qui guide l'exhortation des apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, c'est toujours la même. Ce qu'ils prêchent, c'est la vie nouvelle. C'est la résurrection promise. C'est cela que Dieu vous promet, c'est cela que Dieu vous donne en Jésus-Christ. La vie nouvelle dès aujourd'hui et la résurrection pour l'avenir. Mais pour arriver à la résurrection, l'obéissance présente a envers nous deux impératifs. Il y a vraiment deux impératifs. Le premier, c'est d'avoir une totale confiance en la justice de Christ pour rendre à Dieu le culte qui lui est agréable par le Saint-Esprit, c'est-à-dire témoigner toujours de Jésus-Christ. Fonder notre témoignage sur Jésus-Christ, fonder notre relation avec Dieu sur Jésus-Christ. C'est le premier impératif de l'obéissance de la foi. Et le second impératif, c'est d'aligner toujours ta conduite sur la sainteté de Dieu. Au sein de ce monde pécheur, au sein de ce monde vain dans tout ce qu'il fait. C'est les deux grands impératifs de l'obéissance de la foi. Le culte fondé sur la justice de Dieu en Jésus-Christ et la conduite fondée sur la sainteté de Dieu. Avec l'espérance que ce que Dieu a promis, il le donnera. Vous avez remarqué que Paul parle de connaître la puissance de la résurrection de Christ. Et puis, il termine en disant, pour parvenir, si je puis, à la résurrection. C'est, je pense, par humilité que l'apôtre parle de cette manière, mais ça indique quand même bien que si nous connaissons la vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit, si c'est déjà une réalité, ça n'empêche que nous sommes confrontés toujours et en permanence à la réalité aussi existante du péché dans le monde, dans nos cœurs, et que l'étape ultime de la résurrection des corps, de la vie éternelle auprès de Dieu, suppose que nous persévérions dans un chemin qui est celui que Christ a emprunté, le chemin de l'obéissance qui suppose le renoncement à soi, les souffrances, l'opposition, le conflit entre la chair et l'esprit que nous acceptons de mener dans la connaissance, dans la communion du Saint-Esprit, dans la connaissance de la vérité qui est dans la parole. Et donc Paul ne va pas affirmer, sachant, et dans d'autres passages il le fera, mais dans ce contexte-là, il ne va pas dire « sachant que je vais ressusciter avec Christ », mais « pour parvenir, je m'efforce de parvenir à cet état où, au jour de la résurrection, je serai prêt, parce que j'aurai vécu complètement cette obéissance jusqu'au bout. L'obéissance initiale m'aura conduit à des actes successifs, à des obéissances successives qui vont m'amener à ne faire confiance finalement qu'à Jésus-Christ lui-même et à sa mort et sa résurrection, à placer totalement, donc me dégager d'une part de toutes ce que l'apôtre appelle les œuvres mortes, les œuvres religieuses infructueuses, me dégager d'un culte formel, d'un culte de rite, d'un culte de pratique qui serait censé m'apporter de la justice, et en me dégageant de, on peut dire, la fausse religion, désirer profondément vivre la vie de Jésus-Christ, la vie de l'Esprit, la vie dans la sainteté, non seulement seul, mais en communion avec mes frères et sœurs, puisque une autre dimension intervient que l'apôtre aborde juste ensuite, l'apôtre Pierre, hein, « ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc on entre là dans une autre dimension qui est celle de l'amour dans lequel le Seigneur nous renferme tous et que nous partageons tous ensemble. Parce que nous avons obéi à la vérité, alors nous avons un amour sincère pour ceux qui ont fait la même démarche que nous et nous nous soutenons mutuellement pour pouvoir persévérer ensemble dans l'obéissance jusqu'à ce que le fruit de cette obéissance soit manifesté et que nous soyons prêts à rencontrer notre Seigneur qui, ayant donné sa vie pour nous, a été ressuscité et s'est assis maintenant à la droite du trône de Dieu. Aucun péché ne peut nous séparer de Dieu dans la mesure où nous avons reçu dans nos cœurs l'assurance de la justification, l'assurance que, en mourant sur la croix, Christ a porté nos péchés. Et maintenant, nous pouvons, nous en avons la capacité, puisque le Saint-Esprit nous a été donné, nous avons la capacité de vivre dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Amen.